Ouais, alors deux documents circulent. Là où il est écrit parabole et monde narratif avec un petit schéma. Et puis le deuxième. Voilà, pendant ce circuit, je vais commencer. Alors, lorsque M. Pire m'a invité à ce séminaire, il m'avait signalé que la séance d'aujourd'hui serait consacrée aux approches liées à la sémantique des mondes possibles. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine, mais j'ai quand même accepté, parce que j'ai tout de suite pensé aux paraboles évangéliques, qui posent effectivement un problème quant au monde qu'elles mettent en scène, et je pense qu'on en discutera tout à l'heure. Effectivement, on voit que dans la Bible, les paraboles proposent très souvent un monde qui est en même temps extrêmement familier, ancré dans la vie quotidienne, et pourtant totalement en rupture avec les normes éthiques habituelles. Donc si je ne vais pas aborder ces paraboles directement sous l'angle de la sémantique du monde possible, j'espère néanmoins que les textes que je vais analyser brièvement permettront de débattre de cette question lors de la discussion finale. Alors, en venant vous parler de paraboles, je prends un risque. C'est celui de ne pas vous apporter du tout la doxa des exégètes de la Bible, mais plutôt de mettre en discussion une opinion un peu dissidente concernant la narrativité de ces textes. C'est pour ça que je vous ai repris quant au titre, parce que je ne prends pas le récit, enfin tout n'est pas récit. D'accord. Vous verrez que c'est un gros problème pour moi.
D'accord.
Alors, j'ai considéré que dans le cadre d'un séminaire consacré aux approches narratologiques contemporaines, je pouvais amener un petit moment de controverse. Alors, l'objet du débat est le suivant. La parabole est généralement considérée comme l'équivalent religieux de la fable et à ce titre, elle est réputée fonctionner comme un récit exemplaire. Or, quand on y regarde de plus près, on peut faire trois constats au moins. D'abord, les paraboles ne sont pas toutes narratives. J'ai trouvé des exemples de paraboles que j'appelle paraboles tableaux, de paraboles devinettes, et je dirais d'ailleurs à l'origine, peut-être M. Calame pourra le préciser, mais le mot grec parabolé veut dire comparaison et ne préjuge en rien en fait de la forme textuelle. Donc cette assimilation de la parabole au récit exemplaire, j'en ai pas trouvé la trace, en tout cas pas tout le temps dans les paraboles que j'ai travaillées. Deuxième constat, il y a au moins deux catégories de paraboles narratives, celles qui présentent vraiment une structure textuelle de récit, et elles sont rares, je travaillerai une tout à l'heure, mais elles sont rares, et celles beaucoup plus nombreuses qui ont une simple structure de script. Alors je reviendrai sur ces notions, qu'est-ce que j'entends exactement par récit et par script, évidemment. Troisième constat, les paraboles de la deuxième catégorie, c'est-à-dire ces paraboles script, ne fonctionnent pas du tout comme des récits exemplaires. C'est-à-dire qu'elles ne sont absolument pas là pour illustrer une règle qui serait déjà admise. Donc mon hypothèse, c'est que les deux formes narratives, le récit et le script, correspondent à des visées différentes. Les paraboles récits confortent les lois du monde réel, ces règles qui vont de soi, et les paraboles script, au contraire, provoquent une véritable rupture dans les normes éthiques habituelles. Et pour défendre ce postulat, je vais procéder en trois temps. D'abord, je vais définir à l'aide de deux courts exemples ce que j'entends précisément par script et par récit. Ensuite, j'illustrerai mon hypothèse de forme et de visée différentes en analysant deux paraboles, la parabole des vignerons meurtriers et celle des ouvriers de la 11e heure. Et on verra à ce moment en quoi la parabole script se distingue d'un récit exemplaire. Et enfin, en guise de conclusion, et surtout, je dirais, pour amorcer la discussion, je poserai la question des mondes sur la pointe des pieds, mais la question que je poserai, et qui est une vraie question pour moi, je n'ai en tout cas pas de réponse, enfin, si une tentative, une petite idée, est-ce qu'on peut dire que le monde narratif de la parabole est un monde possible? Mais là, je laisserai les experts. Alors, première chose, la distinction entre script et récit. Bien, le script, c'est une notion qui vient de la psychologie cognitive, et en psychologie cognitive, le script désigne une séquence événementielle qui survient fréquemment et suivant un ordre spécifique. Il s'agit toujours, en fait, d'activités socio-culturelles comme prendre le train, aller au restaurant, faire des achats, etc. Et ces activités comportent une série d'actions conventionnelles, socialement stabilisées, et dont l'ordre chronologique est fixé une fois pour toutes. Et on désigne parfois ces séquences stéréotypées sous le terme de cadre de connaissance. qu'il faut retenir, c'est que les scripts sont présents en mémoire chez tous les membres d'une même culture. Hein, c'est socio-culturel. Et ils permettent d'anticiper ce qui doit vraisemblablement arriver après une action type donnée. Du point de vue de la textualité, je dirais qu'il n'est pas pertinent d'énoncer toutes les parties d'un script, puisque c'est stéréotypé. Il suffit, en fait, s'il se déroule selon l'ordre canonique, d'indiquer un élément. Et là, je fais référence au texte de Catullus, c'est le premier exemple que vous avez sur la première page, sous le titre « Parabole et monde narratif ». Qu'est-ce qu'il dit, Quintilien? Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas la notion de script, mais il nous dit exactement quelque chose sur un script. Je lis avec vous. Je suis venu sur le port, j'ai aperçu le navire, j'ai demandé le tarif du passage, on s'est mis d'accord sur le prix, j'ai embarqué, on a levé l'ancre, on a détaché la main, nous sommes partis. Rien de tout cela ne peut être dit plus rapidement, mais il suffit de dire « j'ai quitté le port en bateau ». Donc, en fait, qu'est-ce qu'il nous a décrit? Il nous a décrit le script « prendre le bateau ». C'est tellement conventionnel que c'est effectivement inutile de l'ordonner dans son intégralité et la mention d'une seule action suffit, j'ai quitté le port en bateau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un script, c'est une séquence textuelle chronologique, strictement linéaire et complètement prévisible. Alors maintenant le récit, il faut que je le définisse dans le sens que j'utilise habituellement, c'est-à-dire dans un sens assez strict et un sens étroit. Alors, je fais une petite mise au point terminologique, c'est-à-dire que je vais réserver l'étiquette vraiment de récit à une catégorie narrative spécifique qui doit présenter un mode de composition spécifique. Et mon postulat, qui a été repris par Jean-Michel Adam dans ses derniers ouvrages, c'est qu'il existe en fait des gradients de narrativité. Donc, pour moi, il existe un ensemble de textes que je vais appeler narratifs. Il y a de la narrativité dès qu'il y a des actions qui se déroulent dans un ordre chronologique. Mais ces faits de narrativité relèvent pour moi d'une espèce de logique un peu floue et c'est très difficile de dire qu'un texte est ou n'est pas un récit. Il est plus ou moins un récit. Alors, bien sûr qu'il y a des textes prototypiques idéaux. Tout à l'heure, je vais analyser un très court texte que j'appellerai récit. Mais ça, c'est toujours très commode. On prend toujours des vrais récits prototypiques pour expliquer ce que c'est que le récit. Et puis, dès qu'on est dans un ouvrage, bon, c'est plus, en fait. Hein, c'est plus ou moins un récit. Et en fait, je dirais qu'il y a peut-être simplement un faisceau de critères qui permettent de classer les textes sur un continuum qui va du pôle descriptif prototypique au pôle récit prototypique. Et justement, dans mon livre « Les textes d'action », je montre en fait que la mise en texte d'action ne débouche pas forcément sur un récit et je développe en détail en tout cas trois catégories narratives que j'appelle la chronique, la relation et le récit. Je n'ai pas le temps, évidemment, aujourd'hui de parler de ces trois catégories. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux récit qui présente un mode de composition spécifique? Il faut au moins deux éléments extrêmement importants, c'est le nœud et le dénouement. Et là, je n'invente rien, je reprends ce qu'Aristote disait déjà dans la poétique, puisqu'il parlait d'une phase de nouement et une phase de dénouement. Et la structure canonique complète, elle n'est pas toujours complète dans les textes, mais la structure canonique, si elle est complète, présente cinq parties, ce fameux schéma quinaire dont vous avez certainement entendu parler. Une situation initiale, un nœud. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nœud? C'est un événement saillant qui vient perturber, en fait, l'équilibre initial. Ensuite, un noyau actionnel central, qu'on appelle, pour simplifier, une action. Un dénouement et une situation finale. Donc, composer un récit, pour moi, c'est vraiment nouer et dénouer une intrigue. Certains auteurs, certains romanciers, d'ailleurs, parlaient d'un texte qui doit faire la pyramide. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une tension interne entre une phase de nouement et une phase de dénouement. Ça, pour moi, c'est un récit au sens strict. Alors, je vais prendre un très court exemple de récit qui tient en quatre phrases. C'est l'exemple numéro 2. Il s'agit d'un fait divers rédigé par le fameux journaliste Félix Fénéon. Vous avez peut-être entendu parler. Il écrivait ses nouvelles en trois lignes. En fait, il reprenait des faits divers et il les réécrivait à sa manière de façon plus ou moins poétique ou humoristique. Ça date donc de 1906. Il écrivait pour le grand quotidien Le Matin. Voilà le texte. Dans le lac d'Annecy, trois jeunes gens nageaient. L'un, Janinetti, disparut. Plongeons des autres, ils le ramenèrent, mais mort. J'ai un récit complet. C'est en quatre phrases, mais vous allez voir que c'est un récit complet. Pourquoi? Vous avez la première phrase qui constitue une situation initiale, assez paisible, sans complication. Hein, dans le lac d'Annecy, trois jeunes gens nageaient. Ensuite, la deuxième phrase, c'est le nœud. la disparition de Janinetti, c'est cet événement particulier qui vient perturber l'équilibre initial. Troisième phrase, c'est l'action. C'est le nœud, c'est le noyau du récit, le plongeon, c'est-à-dire la réaction des autres. Vous voyez d'ailleurs que c'est une phrase qui est simplement nominale, hein, plongeon des autres. Et cette réaction des autres, c'est bien une tentative pour rétablir l'équilibre initial. Le dénouement, c'est la première partie de la quatrième phrase. Ils le ramenèrent. Effectivement, ramener celui qui a disparu laisse envisager la résolution du problème. Mais la deuxième partie de la phrase, qui commence par « mais » précisément, décrit une situation finale déceptive, puisque Janinetti est mort. Donc vous voyez que dans ce tout petit exemple de fait divers, vous avez une structure narrative complète avec un nœud et un dénouement. Alors, en quoi est-ce que cette structure narrative correspond à une définition que j'ai appelée stricte ou étroite du récit? C'est que justement, ça va permettre, si on est d'accord sur cette définition, de ne pas considérer comme récit, par exemple, tous les textes procéduraux de type recette, notice de montage, etc., qui sont considérés comme des récits par les grammaticiens. Dans les textes procéduraux, on passe bien d'une situation initiale, où les éléments sont épars, à une situation finale qui, à la suite de la transformation, amène à la constitution de l'objet à construire ou du mets à préparer, mais ça se passe de façon linéaire. On a bien une chronologie d'action, mais ça se passe de façon linéaire. Il n'y a pas de nœud et de dénouement dans une recette, donc ça va me permettre de distinguer en tout cas ces deux classes de textes. Donc le schéma quinaire modélise la forme compositionnelle du récit. Et j'ajouterai juste un commentaire sur la fonction du récit. On verra que c'est très important pour l'analyse des paraboles. Et là, je renvoie à Paul Ricoeur. Pour Paul Ricoeur, le récit est un instrument cognitif qui présente toujours une visée explicative. Je cite Ricoeur, il dit, c'est dans Temps et récit 1, « Un récit qui échoue à expliquer est moins qu'un récit. Un récit qui explique est un récit pur et simple. » Pour Ricoeur, si avant le récit, il y a profusion de faits, parfois incohérents, hein, quand on vit sa vie, et Sartre le disait déjà, quand on vit sa vie, c'est un peu le chaos, dans et par le récit, le chaos s'ordonne. Donc il y a cette faculté de configurer, hein, si je reprends les termes de Ricoeur, de configurer le réel par le biais du récit. Donc raconter, c'est mettre en cohérence. Et dans différentes disciplines, bien sûr la sémiotique, la philosophie, mais aussi dans la psychologie et en psychiatrie, le récit vraiment est actuellement reconnu comme la forme textuelle qui donne sens à l'action humaine. Il semblerait qu'on raconte d'abord pour comprendre le monde et donner un sens aux actions qui s'y déroulent. Et je cite Jérôme Brunner dans un ouvrage intitulé « Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?» Je le cite, vous n'avez pas la citation. Il ne peut y avoir d'institution légale ou de prescription sans récit qui permette de les situer et de leur donner un sens. Chaque constitution a son épopée, chaque décalogue a ses écritures. Une fois qu'elle a été comprise dans le contexte des récits qui lui donnent sens, la loi cesse d'être un simple système de règles qu'il convient d'observer. Elle devient un univers dans lequel il s'agit de vivre. Donc notre interprétation du monde semble complètement liée à cette faculté de l'esprit à raconter des histoires, à construire des histoires, cette faculté que le philosophe Bergson appelait la fonction fabulatrice. Et cette fonction est si importante que lorsqu'un individu est frappé de dysnarrativie, hein, c'est un dysfonctionnement neurologique qui affecte la capacité à raconter ou à comprendre des histoires, eh bien c'est toute sa personnalité qui s'en trouve déstructurée. Et certains spécialistes en neurosciences font même l'hypothèse qu'il existe dans notre cerveau un module dont la fonction serait de donner un sens aux événements en les faisant entrer dans des récits où ils sont liés par des relations de cause à effet. Et là, je renvoie à un certain auteur, je ne vous ai pas mis de référence biographique, je suis désolée, mais ça peut venir, j'ai mis mon mail en revanche, Galzaniga, 1994, donc ce sont des ouvrages assez récents dans les neurosciences qui font vraiment l'hypothèse de ce module narratif. Bien, ça c'était le premier point pour distinguer qu'est-ce que c'est qu'un récit, qu'est-ce que c'est qu'un script à mon sens. Maintenant je vais passer à l'exemplification, c'est toujours un petit peu plus dangereux quand on met le nez dans les textes. Parabole récit et parabole script. Alors, la plupart des analyses du discours parabolique partent de cet a priori, je l'ai dit tout à l'heure, que la parabole est toujours un récit. Alors, attention, là, c'est la notion de récit au sens large. La notion de récit au sens de la sémiotique narrative. D'ailleurs, je dirais que ce sont les sémioticiens qui, dans les années 70, ont renouvelé l'exégèse biblique, et ce sont eux qui, actuellement encore, proposent, je trouve, les analyses les plus intéressantes du discours parabolique. Mais on sait que pour eux, le récit est pris dans un sens très large. Dès qu'il y a des actions, hein, dès que ça bouge dans un texte, et dès qu'il y a un déroulement chronologique, c'est du récit. Alors maintenant, je vous propose de comparer deux paraboles. Une parabole qui, à mon sens, a effectivement une structure de récit, et une parabole scripte. Alors, la première parabole, c'est la parabole des vignerons meurtriers. Vous l'avez, c'est le numéro 3. Elle est construite en forme d'intrigue. C'est un récit au sens strict. Alors, je fais l'hypothèse que vous n'avez peut-être pas tous cette parabole en tête, alors je vous la lis rapidement. Il commença à leur parler en parabole. Un homme avait planté une vigne. Il l'avait entourée d'une clôture, y avait creusé une cuve et bâti une tour. Il la louait à des vignerons et il est parti en voyage. Il envoya un esclave aux vignerons à temps pour faire prendre chez eux des fruits de sa vigne. Mais ils l'ont pris, battu et renvoyé sans rien. Il leur a encore envoyé un autre esclave. Celui-là aussi, ils l'ont traité de haut et l'ont insulté. Il leur en a encore envoyé un autre. Celui-là, ils l'ont tué. Et beaucoup d'autres. Ils ont battu ceci, tué cela. Il en avait encore un fils aimé. Il le leur a envoyé en dernier en se disant, ils vont respecter mon fils. Mais ces vignerons-là se sont dit entre eux, c'est l'héritier. Ici qu'on le tue et à nous l'héritage. Ils l'ont pris, l'ont tué et jeté hors de la vigne. Que va faire le seigneur de la vigne ? Il va venir, il va perdre les vignerons et donner sa vigne à d'autres. Vous n'avez donc pas lu ce qui est écrit ? La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs est devenue tête d'angle. Elle l'est devenue par le Seigneur et à nos yeux c'est étonnant. Alors vous pouvez suivre le découpage et dans le texte, puisque j'ai rajouté des petits A et des petits B qui me permettent après de montrer la structure. Effectivement, dans le fameux schéma clair que vous avez en dessous de la parabole, vous voyez le découpage que j'ai fait. Alors, je le reprends rapidement pour qu'on soit d'accord. Donc, la situation initiale, à mon sens, ce sont les versets 1 et 2. C'est une situation tout à fait banale. Un propriétaire aménage une vigne, la loue à des vignerons, s'absente et à son retour envoie chercher le produit de sa vigne. Au verset 3, le récit est déclenché par un événement inattendu. Les vignerons refusent de fournir les fruits demandés et, plus scandaleux encore, battent l'envoyé du maître. Le verset 3 constitue donc le nœud de l'intrigue. D'ailleurs, vous avez un « mais » à l'initiale qui marque bien l'action comme contraire à la sente logique. C'est à ce moment que les vignerons se révèlent être « les méchants de l'histoire ». À partir de là, on assiste à une succession d'envois du maître et de refus des vignerons. Que vous avez dans le schéma avec toutes les flèches qui sont indiquées. Dans cette phase du récit qui constitue l'action, on devine deux points de vue opposés. D'une part, le point de vue, je dirais, éthique du maître qui espère le dénouement positif, c'est-à-dire recevoir les fruits de sa vigne, et d'autre part, le point de vue contre-éthique, si vous voulez, des vignerons qui tentent de résoudre la situation en leur faveur, c'est-à-dire de tuer au fur et à mesure les esclaves du maître pour garder la vigne. Et ce double point de vue est tout à fait explicite au verset 6 et 7, puisqu'au verset 6, le maître envoie son fils et évalue l'effet de cette action selon la norme morale commune, puisqu'il dit « ils vont respecter mon fils au moins ». Et au verset 7, de nouveau, le connecteur « mais » signale le point de vue inverse, celui des vignerons. C'est l'héritier qu'on le tue et à nous l'héritage. Et la dernière réaction du maître au verset 9, ce sont les propositions A, B, c'est de venir en personne. Et enfin, le dénouement, verset 9, proposition C et D, est constitué par la punition postulée des méchants. C'est postulé, on voit bien, puisqu'on a un futur périphrastique, il va perdre les vignerons et donner sa vigne à d'autres. Et la situation finale, vous voyez dans le schéma un ensemble vide, elle n'est pas exprimée, c'est à l'auditeur de la déduire du dénouement. La plupart du temps, on n'a pas les cinq propositions complètes qui sont données dans un texte. Alors, dans le schéma, on constate que l'essentiel du récit se développe en une longue succession d'actions-réactions qui aboutit à la prédiction de la punition des vignerons. Et à ce propos, il faut relever la coupure opérée par le verset 9. Le conteur de la parabole, à savoir Jésus, interrompt son récit pour poser une question. Que va faire le Seigneur de la vigne? Cette question apparaît précisément à l'approche du moment crucial de l'intrigue, le dénouement. Et pourquoi, en fait, il s'interrompt ici et il demande à son auditoire ici de répondre? C'est que, justement, par son questionnement, il va mobiliser l'attention, entre autres, des grands prêtres et des pharisiens qui l'écoutent. Il va solliciter leur réaction, leur évaluation. D'ailleurs, dans d'autres variantes, chez d'autres évangélistes, on a effectivement la réponse de l'auditoire. Ou une proposition de réponse par Jésus avec l'auditoire qui crie « non ». Alors, au lieu de prendre en charge sans autre le dénouement du récit, il demande à ses auditeurs de l'anticiper. Cette anticipation qui est marquée donc, par l'utilisation du futur périphrastique au verset 9. Et pour que les gens évaluent ce qui va se passer, il en appelle en fait aux normes culturelles et à l'éthique. On pourrait dire au sens commun. Et à ce propos, je renvoie à une citation de Ricoeur qui, dans Temps et Récits, rappelle ceci. Vous avez la citation en page 2. Je lis avec vous. En fonction des normes immanentes à une culture, les actions peuvent être estimées ou appréciées, c'est-à-dire jugées selon une échelle de préférence morale. Elles reçoivent ainsi une valeur relative qui fait dire que telle action vaut mieux que telle autre. Ces degrés de valeur attribués d'abord aux actions peuvent être étendus aux agents eux-mêmes, qui sont tenus pour bons, mauvais, meilleurs ou pires. La compréhension pratique que les auteurs partagent avec leur auditoire comporte nécessairement une évaluation des caractères et de leur action en termes de bien et de mal. Il n'est pas d'action qui ne suscite, si peu que ce soit, approbation ou réprobation, en fonction d'une hiérarchie de valeurs dont la bonté et la méchanceté sont l'épaule. Et ce que Jésus demande à son auditoire, c'est effectivement une évaluation éthique du comportement des vignerons meurtriers. Et en sollicitant l'opinion commune, Jésus impose en quelque sorte la réponse. Les vignerons seront perdus par le Seigneur de la vigne, car la loi morale ordinaire veut que les méchants soient punis. Et en ce sens, la parabole des vignerons meurtriers présente un monde cohérent dans lequel la justice finit par triompher. Et je dirais que dans ce cas précis, il semble bien que la forme narrative au sens strict, avec un nœud et un dénouement, soit la plus adéquate. Puisqu'il y a mise en intrigue, il y a clôture du texte, et ce qui est raconté est lisible et cohérent. Et les lois morales sont respectées. Donc cette parabole récit part de ce que j'appellerais une fracture dans l'habituel, au départ les vignerons refusent d'obéir, pour aboutir quand même à un monde concordant dans lequel les normes éthiques sont respectées, puisque les vignerons seront à coup sûr punis. Donc on voit bien ici la valeur explicative inhérente au récit. Et la réaction d'ailleurs à l'écoute de cette parabole prouve que le message a été compris sans ambiguïté, puisque dans un premier temps, les pharisiens et les grands prêtres tentent de s'emparer de Jésus. Je lis juste la suite, le verset qui suit la parabole. Ils cherchaient, donc les pharisiens et les grands prêtres, ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, car ils savaient qu'il avait dit la parabole pour eux. Alors, pour comprendre que la parabole a été dite pour eux, il y a un petit travail interprétatif à faire, c'est que les auditeurs ont dû bien sûr faire une lecture allégorique du récit. Je ne vais pas revenir sur le fait que de toute façon les paraboles, pour être décodées, on doit avoir une lecture parabolique. Rapidement, ils ont reconnu que le propriétaire de la vigne, c'était Dieu, la vigne, c'est Jérusalem, le Fils aimé, c'est le Christ, et par conséquent, les vignerons, ce sont eux, les grands prêtres et les pharisiens. Tiens, je passe maintenant à un exemple de parabole que j'appelle parabole script. C'est la parabole des ouvriers de la 11e heure, je la lis aussi avec vous. Donc le chapitre 19 se termine au verset 30. Beaucoup de premiers seront derniers, de derniers premiers, je vous l'ai donné, puisque le chapitre 20 commence par un quart, qui est évidemment branché sur le verset 30 du chapitre qui précède. Car le règne des cieux est pareil à un maître de maison qui est sorti à l'aube engager des ouvriers pour sa vigne. Il s'est entendu avec les ouvriers sur un denier la journée et les a envoyés à sa vigne. En sortant vers la troisième heure, il en a vu d'autres qui restaient oisifs sur le marché. Il leur a dit, « Allez-vous-en vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y sont allés. Il est sorti encore vers la sixième et la neuvième heure, et il a fait de même. En sortant vers la onzième heure, il en a trouvé d'autres qui restaient. Il leur a dit, « Pourquoi restez-vous ici oisifs toute la journée ?» Ils lui disent, « Parce que personne ne nous a engagés. » Il leur dit, « Allez-vous-en vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le seigneur de la vigne a dit à son régisseur, « Appelle les ouvriers et paye-les en commençant par les derniers et jusqu'au premier. » Ceux de la onzième heure sont venus et ont reçu chacun un denier. Quand les premiers sont venus, ils ont cru qu'ils recevraient plus. Et ils ont reçu, eux aussi, chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de maison et disaient, « Ceux-ci, les derniers, n'ont fait qu'une heure et tu les fais nos égaux, à nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Camarade, je ne te fais pas de tort. Est-ce que tu ne t'es pas entendu avec moi sur un denier ? Enlève le tien et va-t'en. Je veux donner à ce dernier-là autant qu'à toi. Est-ce que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux de mon bien ? Ou as-tu l'œil mauvais parce que je suis bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors, on voit que cette parabole présente un mode de composition extrêmement simple. C'est le déroulement alterné de plusieurs séquences d'actions stéréotypées, à savoir l'engagement d'ouvriers, le paiement des ouvriers. Donc, on reconnaît le script, engagement du personnel. Et la mention des deux bornes du script, c'est-à-dire l'engagement et le paiement, suffit au lecteur pour inférer que le travail a bien été effectué. D'où l'ellipse sur la phase de travail des ouvriers. Alors, les versets 1 à 7 relatent les engagements successifs à des moments différents, à l'eau, vers la troisième heure, vers la sixième et la neuvième heure, vers la onzième heure. Et du verset 8 au verset 10, conformément à l'attente, on assiste au paiement des ouvriers. Donc on peut dire que le script est respecté. Il y a eu engagement, travail et paiement du travail. Quant au verset 11 à 15, il constitue d'une part l'évaluation interne, puisque ce sont les personnages du récit qui réagissent, hein, l'évaluation interne du scandale provoquée par une récompense identique à des performances différentes. Les personnages du récit disent, ils murmuraient contre le maître de maison et disaient, « Ceux-ci, les derniers, n'ont fait qu'une heure et tu les fais nos égaux à nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Et d'autre part, la réponse à cette critique, puisque le maître dit, « Camarade, je ne te fais pas de tort, est-ce que tu ne t'es pas entendu avec moi sur un denier ?» Et enfin, vous avez le verset 16 qui vient clore la parabole sous la forme d'une morale, je dirais, externe qui fait écho au verset 30 qui précède la parabole. Hein, le verset 30, c'était « Beaucoup de premiers seront derniers » et puis la parabole se termine avec « Ainsi les derniers seront les premiers », etc. Alors, cette parabole, du point de vue du mode de composition, n'est pas un récit. On n'a aucun nœud. Aucune intrigue n'est nouée. Et au contraire, je dirais, on a un scénario type qui se déroule parfaitement linéaire et cohérent. Des ouvriers sont engagés, puis payés. C'est donc ce que j'appelle, moi, une parabole script. Et d'un point de vue logique, chaque script est acceptable en soi, dans la mesure où le contrat est respecté. Aux ouvriers de la première heure, à qui il a promis un denier, le maître donne effectivement un denier. Et quant à ceux à qui il a promis ce qui est juste, eh bien, il paye ce que lui estime être juste. Mais le scandale logique se situe au niveau de l'évaluation des actions du maître, puisque sa notion de justice, le moins qu'on puisse dire, ne correspond pas à l'attente commune. Il y a rupture éthique, parce que ce n'est pas concevable qu'à travail inégal, il y ait salaire égal. Donc on voit que d'un monde totalement banal, hein, ce monde du script, surgit un monde déroutant. Et en conclusion à l'analyse rapide de ces deux paraboles, je dirais que le récit au sens strict ne constitue certainement pas la forme la plus pertinente pour la parabole évangélique. En effet, le récit propose toujours un monde cohérent et explicable. Alors que le but de la parabole, c'est l'inverse. Le but de la parabole, c'est d'interpeller, de provoquer, en insérant une fracture dans l'habituel, c'est-à-dire une discordance, si je reprends les termes de Ricoeur. Donc dans la mesure où la parabole n'a pas du tout pour fonction d'expliquer le monde tel qu'il est, mais plutôt d'ouvrir sur d'autres possibilités, et c'est là qu'on verra peut-être s'il est question de monde possible, ça m'apparaît très difficilement concevable d'enfermer les paraboles dans une structure de récit. dirais que c'est contradictoire par rapport à la forme narrative stricte. Et à mon sens, le coup de force des paraboles évangéliques réside précisément dans le fait qu'elles ne proposent généralement pas un récit canonique, mais des scripts. Et en lisant différentes paraboles, vraiment, alors là il faut me croire sur parole, en général on a des paraboles, plutôt des paraboles scrites. Alors, ça me permet de faire juste quelques allusions sur ces mondes narratifs, est-ce que ce sont des mondes possibles? Je vais faire un certain nombre de constats, et puis lancer peut-être un certain nombre de questions. Donc constat, là je vais commenter que ces paraboles les plus nombreuses, ces paraboles scriptes, et je dirais que ce qui distingue la parabole scripte du récit exemplaire, vous vous souvenez, au départ, je suis partie de cette hypothèse que font les exégètes bibliques, que la parabole est un récit exemplaire. Eh bien, je dirais que, à la différence du récit exemplaire, la parabole scripte ne constitue en aucun cas un argument logique qui serait susceptible d'illustrer une règle déjà connue et plus ou moins admise, ce qui est le cas des fables. Dans les fables, vous avez une règle qui est plus ou moins admise, ou totalement admise, qu'on va illustrer. C'est bien le propre du récit exemplaire. La parabole, c'est une interpellation, je vous ai dit, une provocation, une impertinence. Et avec ces paraboles, je dirais que le mouvement interprétatif est tout à fait inverse que dans les fables et les récits exemplaires. Au lieu de rendre le sens du texte conforme aux normes éthiques de celui qui écoute, la parabole suggère la découverte d'une nouvelle morale à appliquer dans le monde réel. Hein, je vous rappelle que l'enfant prodigue n'est pas puni mais fêté, les ouvriers de la 11e heure aussi bien rémunérés que ceux de la première heure, etc., etc. On est toujours dans des scandales du point de vue de la logique et des normes habituelles. Et là, je vais emprunter une image à Jean-Marie Schaeffer dans son livre « Pourquoi la fiction ?». Je dirais que la parabole tente, et là je cite Jean-Marie Schaeffer, de faire descendre son invention fictionnelle dans l'arène du réel. Dans son ouvrage « Pourquoi la fiction ?», il montre qu'Aristote n'envisageait que la possibilité inverse, c'est-à-dire la fictionnalisation d'événements réels. Et là, la parabole, elle fait l'inverse. Elle essaye de faire redescendre de la fiction dans l'arène du réel. Donc, la parabole représente fictionnellement des nouvelles possibilités d'existence dans le monde réel. Et à ce propos, certains parlent d'un processus métaphorique visant la création d'un sens autre et nouveau. Je dirais que selon les théories linguistiques herméneutiques récentes, la métaphore est plus seulement définie comme une simple figure stylistique, mais aussi comme un processus dynamique visant la constitution d'un sens hypothétique. Et là, je cite Jean-François Habermacher dans un ouvrage sur la narration parabolique. Il dit « La métaphore n'est plus un phénomène de la dénomination substitutive, mais un phénomène de la prédication qui possède une dimension créatrice et constitue l'innovation sémantique par la mise en tension d'un monde habituel rencontré par un monde inhabituel. » Et c'est pour ça que on est dans ces histoires de mondes. Alors ce sera à vous tout à l'heure de me dire si ce sont des mondes possibles. Je continue avec Habermacher qui dit à propos des paraboles « Interpellé par le choc de la métaphore, l'auditeur est appelé à reconstruire lui-même un sens devenu impossible. Il est tenu de convertir l'inintelligible en compréhensible, de transformer l'impertinence de l'énoncé en pertinence significative. L'auditeur déchiffre la métaphore de la même manière qu'on découvre une énigme. En insérant une fracture dans l'habituel et le qui va de soi, la métaphore fait acte créateur. Elle débouche sur une relecture possible de la réalité. » Alors, prenons un exemple de ce type de lecture avec la parabole de l'enfant prodigue. Vous savez que cette parabole relate les aventures d'un fils cadet qui quitte la maison de son père avec sa part d'héritage, qui dilapide tout l'argent et décide de revenir chez lui. Et c'est à ce moment précis que le contenu présenté par la parabole, devient déconcertant, puisqu'en fait, il y a accueil indulgent du père, même fête organisée, hein, puisqu'il va tuer le veau gras, qui manifestement transgresse le principe d'équité qui voudrait qu'un père traite de la même façon le cadet et l'aîné. Et de nouveau, l'auditeur de la parabole ne peut être que choqué. Et on va noter que la rupture éthique est thématisé dans le cadre même du texte, puisque le fils aîné lui-même se met en colère et reproche à son père cette différence de traitement. Je cite ce qu'il dit à son père. « Voilà tant d'années que je te suis asservi, sans jamais passer outre à ton commandement, et tu ne m'as jamais donné un bouc pour faire la fête avec mes amis. Et quand ton fils que voilà vient de dévorer ton bien avec des prostituées, tu lui immoles le veau gras. » La réponse du père tente d'amener son fils aîné à une autre perception du monde, à une autre logique. Il lui dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il revit. Il était perdu et il est retrouvé. » Donc on voit que la visée du texte parabolique est une fois de plus totalement opposée à la visée générale des récits traditionnels, et en particulier à la visée du récit exemplaire qui serait d'expliquer le monde tel qu'il est ou tel qu'il doit être. Donc où le récit tenterait d'introduire du logique et du cohérent, la concordance au sens de Ricoeur, la parabole au contraire instaure de la discordance et la perception d'un autre monde. C'est pourquoi aussi les paraboles sont si difficiles à interpréter. Et là, je dirais que seule la redondance et l'intertextualité permettent aux paraboles de livrer leur sens. Par exemple, cette parabole de l'enfant prodigue, qui est scandaleuse du point de vue de l'éthique, suit immédiatement deux paraboles qui ont pour fonction de préparer l'interprétation. Donc, dans ce cas-là, l'intertextualité est très importante et il ne faut pas lire une parabole seule sortie de son contexte. En fait, vous avez deux paraboles qui précèdent, qui sont l'anecdote du berger qui laisse ses 99 brebis dans le désert pour aller chercher la centième qu'il a perdue. Ça aussi, ça paraît un peu étrange. Et d'autre part, le cas de la femme qui, possédant 10 drachmes, mais en ayant perdu une, balaye toute sa maison jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et la conclusion de ces paraboles, c'est qu'il y aura plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et même si ça peut apparaître déconcertant, certainement que cette morale facilite l'interprétation de la parabole de l'enfant prodigue. Donc, la parabole va placer l'auditeur dans une tension surprenante avec sa réalité pour lui faire découvrir un possible nouveau dans sa manière de vivre et de voir le monde. Alors, si je reviens rapidement au monde des paraboles, je dirais que le monde fictionnel, alors est-ce qu'on va l'appeler fictionnel? Là aussi, je suis peut-être plus spécialiste. Plus je lis des ouvrages sur la fiction, moins je sais ce que c'est. Mais je tente le coup. Le monde fictionnel que les paraboles proposent s'enracine dans l'expérience quotidienne. Toutes les paraboles, il s'agit des travaux des champs, des travaux de la vigne, hein, on engage des ouvriers, on sème, on cultive, on récolte, etc. Il s'agit aussi d'autres scènes tout à fait quotidiennes, d'invitations, de fêtes, de repas. Donc ce sont les aspects, je dirais, les plus banals de la vie qui sont représentés. Mais certainement de manière à faire mieux ressortir quelque chose d'étonnant, dans le but précisément d'acheminer l'auditeur de l'univers où il vit vers un horizon différent. Et en fait, je dirais que le sens de toute parabole, c'est certainement de proposer une nouvelle éthique par le biais de la présentation d'un autre monde. Monde possible, point d'interrogation. Et c'est la dernière citation que vous avez dans votre document, que je trouve intéressant parce que je pense que ça va nous permettre de discuter là autour. En nous présentant un monde, donc il parle toujours de la parabole, hein, c'est Adam Asher, en nous présentant un monde qui ne correspond pas au nôtre, sans être pour autant radicalement étranger à celui que nous habitons, les paraboles introduisent au sein de l'existence historique une disproportion, un décalage, une discordance, un décalage entre le monde réel et un monde différent que nous pourrions appeler le monde de la parabole. La parabole transforme le monde qui se donne à notre perception immédiate, à notre logique, en un monde qui nous paraît déroutant, irréaliste, voire utopique. En déconstruisant une certaine compréhension du monde, les paraboles ouvrent les auditeurs à la réalité qu'elles suggèrent, les invitant aussi à reconsidérer leurs propres expériences, leur propre conception des choses. Et là, je vais me brancher sur un article de Françoise Lavocat, « L'œuvre littéraire est-elle un monde possible ?» C'est la seule chose que j'ai lue de vous, mais je me suis précipitée dessus, évidemment, puisqu'il était à disposition sur le net. Et là, vous reprenez la distinction aristotélicienne suivante, en disant « L'historien dépeint les choses telles qu'elles ont été. Le poète peint les choses telles qu'elles auraient pu être. Et moi, j'ai envie de rajouter une troisième possibilité. La parabole relate les choses telles qu'elles devraient être ou telles qu'elles pourraient être, hein, en insistant bien sur la modalisation, mais aussi sur l'aspect prospectif. Il me reste pour moi une dernière question, c'est la question de la vraisemblance. Le monde des paraboles est un monde fictionnel, je mets des guillemets, et en même temps un monde extrêmement réaliste. Hein, on a vu, il est ancré dans le monde quotidien, familier. Mais en même temps, il est invraisemblable, dans la mesure où il viole sans cesse les normes éthiques du monde réel. Et on voit les réactions très très fortes des auditeurs de la parabole, soit à l'intérieur même de la parabole, soit les auditeurs qui l'écoutent. Alors, est-ce que c'est là le signe qu'il s'agit bien d'un monde possible ? Je vais de nouveau vous renvoyer, et ça va être une petite pirouette pour ne pas être, moi, mise à mal. Toujours dans votre article, Françoise Lavocat, vous citez cette définition du monde possible, qui a l'air d'être une définition qui court, en disant « c'est une alternative crédible du monde réel ». Et puis, aussitôt, il me semble, alors là, je ne sais pas si je vous ai bien comprise, mais je vous cite, il me semble que vous la contestiez en ces termes, je vous cite, « une compréhension de la possibilité, en guillemets, comme vraisemblable, rend la théorie des mondes possibles inutilisable pour des pans entiers de la littérature ».